Troisième temps de notre série consacrée à l'histoire de la consommation dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, pour notre émission d'archives du mercredi, les révolutions de la consommation à la Belle Époque. Après avoir débattu de la consommation donc alimentaire des classes populaires lundi, puis hier avoir enquêté sur une famille parisienne anonyme découverte à travers des livres de comptes trouvés sur une brocante, des livres de comptes de 1949, 1950 et 1964 dans le documentaire d'Amaury Chardot et Séverine Cassard, que vous pouvez évidemment réécouter sur le site internet de France Culture. Et avant le débat de demain sur l'arrivée des produits exotiques, le sucre, le café et le thé en Europe au XVIIe, XVIIIe siècle, nous nous intéressons à une période mal connue de cette histoire de la consommation, la Belle Époque. Que s'est-il donc passé entre 1880 et 1914 pour que les historiennes et historiens de la consommation considèrent ce moment-là comme un moment important de cette histoire? C'est ce que nous verrons avec des textes choisis par Victor Massel-Lépinet et lus par Daniel Königsberg, qui seront commentés par Anaïs Albert. Elle est docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au Centre d'histoire du 19e siècle de Paris 1, Paris 4. Avec Marie-Emmanuelle Chessel, elle est directrice de recherche au CNRS, au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po. Elle est auteure de « Consommateurs engagés à la Belle Époque », la Ligue sociale d'acheteurs publiée aux presses de Sciences Po. Et enfin, Manuel Charpie sera également avec nous. Il est chargé de recherche au CNRS, rattaché à l'université de Lille 3. Il est co-directeur de la revue « Mode pratique ». Bonjour Marie-Emmanuelle Chessel.
Bonjour.
Bonjour à vous Anaïs Albert.
Bonjour.
Et bonjour à vous Manuel Charpie.
Bonjour.
Merci d'être tous les trois ici pour évoquer cette histoire de la consommation à la Belle Époque. Mais avant d'imaginer ce qu'est la consommation à la Belle Époque, il faut peut-être remonter un tout petit peu plus loin. Manuel Charpie, le Second Empire sur lequel vous avez travaillé, en particulier pour votre travail de thèse, cette période, disons, de la première moitié, de la deuxième moitié du 19e siècle, pour être un peu embrouillé les auditeurs, c'est déjà très tôt ce matin. Donc ce moment-là, parce que ce moment est un moment important qui va d'une certaine façon prédestiner, ou du moins dire ce que sera justement cette révolution de la consommation à la Belle Époque, Manuel Charpie.
Oui, effectivement, la période de la Belle Époque est pas nécessairement significative, notamment pour tout ce qui relève des consommations bourgeoises. On a quand même l'impression que les changements importants, spectaculaires, interviennent plutôt sous le Second Empire, voire même sous la monarchie de Juillet. Et de toute façon, on le devine, les changements en termes de pratiques de consommation, de rapport aux objets, d'invention de la marchandise, enfin, toutes ces questions-là sont des mutations assez lentes qui relèvent quand même de changements anthropologiques, économiques, urbains, qui sont assez lents. Et sous le Second Empire, évidemment, les mutations urbaines vont accélérer la reconfiguration de la consommation et des pratiques de consommation.
La naissance des grands magasins.
Voilà, la naissance des grands magasins, mais même le développement des boulevards comme un lieu de shopping. Le terme arrive en France dans les années 1840. Donc toutes les pratiques, les nouvelles pratiques économiques, de vente par correspondance, par exemple, se développent à ce moment-là. Donc la question de la Belle Époque est peut-être pas le découpage est peut-être pas si efficace que cela, et d'autant, comme le rappelle Dominique Khalifa dans un article apparaître dans la revue d'histoire du 19e siècle, cette notion de Belle Époque est construite à partir des années 30, contrairement à ce qu'on pense, pas au lendemain de la guerre, mais plutôt dans les années 30, et se développe dans les années 40 et sous les 30 glorieuses, plutôt comme la construction d'un moment nostalgique d'une société qui est à la fois faite de spectacles, de cabarets et de consommation. Voilà, donc une espèce de rêve comme ça d'une consommation pour tous et joyeuse et spectaculaire.
Bien sûr, et ça rejoint effectivement les travaux de plusieurs des historiens qu'on aime bien ici autour de ces questions des découpages chronologiques de périodes et de la peut-être nécessaire du travail nécessaire de redécoupage de ces périodes ou peut-être d'estomper ces barrières chronologiques qui nous aveuglent plutôt qu'elles nous aident d'une certaine façon. Anaïs Albert.
Oui, pour prendre la suite de ce que disait Manuel Charpie, en fait, effectivement, peut-être que la Belle Époque est une période utile pour définir la consommation populaire. Puisqu'en réalité, la consommation populaire, effectivement, débute plutôt autour des années 1880 à Paris. Et justement, avec cette idée assez classique dans la sociologie de la consommation, de la descente des modèles des classes supérieures vers les classes populaires. Donc cette consommation bourgeoise qui s'est développée dans les années jusqu'aux années 1860, on va dire, devient un modèle accessible pour les classes populaires à partir des années 1880. Notamment parce que ces années 1880, c'est la deuxième révolution industrielle, avec le développement de nouvelles industries et du coup des salaires qui augmentent. C'est François Caron, un historien qui avait écrit un article sur l'embellie parisienne à la Belle Époque, justement avec le mot embellie pour bien expliquer cet accroissement des capacités économiques. Donc on voit bien que les salaires augmentent et du coup que les ouvriers peuvent avoir accès, enfin les ouvriers et les classes populaires en général, à de nouveaux objets.
Oui, parce qu'on est aussi dans un nouveau régime, un régime politique, Marie-Emmanuelle Chessel, qui est un régime donc, de la Troisième République qui se veut une république sociale et qui donc, en se voulant une république sociale, veut l'augmentation des salaires, des meilleures conditions de vie qui permettent justement à ce que voulait théoriquement Napoléon III, l'extinction du paupérisme, se marque dans la société française de la fin du 19e siècle, Marie-Emmanuelle Chessel.
Oui, cette période, c'est aussi la République radicale, une période de tension entre radicaux et catholiques. Et c'est aussi un moment où la consommation devient un outil de parole publique pour des militants ou des réformateurs sociaux, hommes et femmes. Ils parlent au nom du consommateur et ils s'organisent. Et certains acteurs expérimentent avec la consommation une action politique organisée en dehors de la politique institutionnelle.
Oui, ce sera les associations ou les ligues dont on parlera avec vous dans un instant, mais qui sont importantes pour pouvoir montrer quand même qu'il y a une sorte de bouillonnement autour de cette question de la consommation. Même s'il n'y a pas la révolution dont on parlait au tout début, il y a des évolutions très importantes qui font que ce secteur de la consommation est un peu bouleversé, en particulier par l'arrivée de cette consommation populaire que vous avez pointé du doigt, Anaïs Albert. Un premier exemple, peut-être, et un exemple puisé dans la littérature et la bonne, un extrait du Bonheur des Dames de Zola.
Est-ce toujours pour lundi prochain cette mise en vente? Demandez justement à Madame Marty. Voyons, donnez-nous des détails, répétait Madame de Boves avec insistance. Vous nous faites mourir. Votre soi, votre Paris Bonheur, dont tous les journaux parlent, reprit Madame Marty impatiente. Oh, répondit-il, un article extraordinaire, une faille à gros grains, souple, solide. Vous la verrez, mesdames, et vous ne la trouverez que chez nous, car nous en avons acheté la propriété exclusive. Vraiment, une belle soie. À 5,60 francs, ni Madame Bourdelet enthousiasmée, c'est à ne pas croire. Cette soie, depuis que la réclame était lancée, occupait dans leur vie quotidienne une place considérable. Elles en causaient, elles se la promettaient, travaillaient de désir et de doute. Et sous la curiosité bavarde dont elle accablait le jeune homme, apparaissait leur tempérament particulier d'acheteuse. Madame Marty, emportée par sa rage de dépense, prenant tout au bonheur des dames, sans choix, au hasard des étalages. Madame Guibal s'y promenait des heures sans jamais faire une emplette, heureuse et satisfaite de donner un simple régal à ses yeux. Madame de Boves, serrée d'argent, toujours torturée d'une envie trop grosse, gardant rancune aux marchandises qu'elle ne pouvait emporter. Madame Bourdelet, d'un flair de bourgeoise sage et pratique, allant droit aux occasions, usant des grands magasins avec une telle adresse de bonne ménagère, exempte de fièvre, qu'elle y réalisait de fortes économies. Henriette, enfin, qui, très élégante, y achetait seulement certains articles, ses gants, de la bonneterie, tout le gros linge.
Hormis l'ironie accentuée par la lecture de Daniel Königsberg de ce texte de Zola, on y voit évidemment un portrait d'un type de consommatrice, en l'occurrence celle qui fréquente ce magasin d'Octave Mouret, donc le directeur du Bonheur des Dames. Manuel Charpé, qu'est-ce que ça nous dit? Évidemment, on sait que Zola allait croquer pour préparer ses romans des scènes de la vie réelle. Qu'est-ce que ça nous dit justement de cette consommation, disons, dans les années 1890.
Alors, déjà, ça nous montre que se construit en même temps que cette consommation change, que se construisent des discours sur cette consommation. On peut se souvenir que les premières théories sociales sur la consommation naissent dans les années 1890, donc sont vraiment le fruit de ces mutations. On peut passer Anaïs Albert parlait tout à l'heure de, d'imitation. On peut penser aux lois de l'imitation de Gabriel Tarde, publié en 1890, ou aux États-Unis, à la théorie de la classe de loisirs de Thorstein Veblen, publié aussi à la fin des années 90. Donc il y a toute une littérature qui va essayer de penser ces mutations sociales, essayer de comprendre ce que ça veut dire et voir dans la consommation quelque chose de central. Parce que ce qui se joue et s'est dit, alors là c'est dit de façon ironique, mais c'est aussi des questions d'identité, c'est pas seulement acheter, c'est aussi se construire une identité
dans un moment bouleversé aussi, parce que tout compte fait, ce moment des années 1880-90, c'est le moment où les codes qui d'une certaine façon étaient les codes classiques d'une société répartie en différentes classes se brouillent par l'arrivée de marchandises à bon marché qui d'une certaine façon permettent à ceux qui n'avaient pas accès à ces marchandises auparavant d'y avoir accès, en l'occurrence, Manuel Charpin.
Oui, il suffit de lire Zola, Paubouille ou toutes les pièces de théâtre de vaudeville, etc. Le toc, l'imitation, toutes les matières et tous les produits copiés, imités, dupliqués envahissent le marché et effectivement, avec derrière une question sociale qui est celle du grand brouillage qu'on redoute aussi. Et c'est vrai, évidemment, pour le vêtement comme pour tous les objets.
Brouillage de classe que vous avez pointé dans votre thèse, dont on attend avec impatience la publication. Anaïs Albès, Albert, le brouillage de classe lié en particulier à cette question de ces produits qui arrivent sur le marché, qui sont peu chers et qui imitent d'une certaine façon les produits que l'on pouvait acquérir auparavant avec beaucoup d'argent.
Oui, tout à fait. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a une grande peur de la confusion sociale à ce moment-là, qui est très nette dans un grand nombre de discours. Et quand on regarde, par exemple, la soie qui était décrite dans ce texte de Zola, en réalité, quand on regarde les intérieurs populaires, il y a peu de soie. C'est-à-dire, ça reste une marchandise finalement assez chère. Et chez certaines femmes célibataires qui ont un niveau de vie plus important, on retrouve des accessoires en soie. Mais ça va être un ruban, ça sera jamais une robe. Et Davenel, qui est un commentateur social de la Belle Époque, parle du rêve de l'ouvrière d'avoir une robe de soie qui, en fait, reste inaccessible. Ce qu'ont, en réalité, les classes populaires, c'est beaucoup du mobilier. Dans l'intérieur des appartements, le rêve, c'est l'armoire à glace. Et puis des vêtements, effectivement. Ça, c'est, elles ont, plutôt les femmes, mais les hommes aussi un petit peu, ont des vêtements.
Dans un contexte, et vous le pointez dans votre livre, Marie-Emmanuelle Chessel, dans Consommateur engagé à la Belle Époque, est un contexte dont il faut bien dire que c'est un contexte d'internationalisation des pratiques de consommation. Les grandes expositions universelles ont commencé dans les années 1850. Il y en a déjà beaucoup derrière soi, quand on arrive aux années 1890. Et ce sont des endroits où l'on échange des idées, où l'on échange des pratiques, où l'on échange des objets aussi. Et tout cela est mélangé dans ces grandes expositions universelles. Et on permet aussi à certains ou à certaines de discuter ensemble, qu'elles soient des États-Unis, d'Allemagne, d'Angleterre ou d'autres pays, à l'occasion de ces expositions universelles sur les modes de consommation dans chacun de ces pays.
Oui, les années 1900 sont des années de circulation internationale, circulation des biens, circulation aussi des militants. Et la consommation est un moyen de réforme sociale. Et les réformateurs sociaux voyageaient beaucoup entre les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la France. Et ils discutaient des moyens de réformer la société. Comme vous le disiez, les transformations de la consommation créent énormément d'anxiété.
Et pourquoi ça crée de l'anxiété, alors dites-nous?
Alors, les brouillages, justement, peuvent créer de l'anxiété. Et puis, l'anxiété peut être aussi liée au fait que ça transforme les pratiques et les modes de consommation. Par exemple, la grande bourgeoisie et les nobles qui sont dans ces ligues sociales d'acheteurs se sentent remis en question dans leur manière de consommer.
Un peu déclassés, d'une certaine façon.
Un peu déclassés. Et puis, si n'importe qui peut acheter des chapeaux, alors où va-t-on ? Donc, du coup, les manières de consommer auprès de ces couturières sont remises en cause par le fait que tout le monde peut consommer les mêmes objets. Donc ça crée de l'anxiété. Ce qui peut aussi créer de l'anxiété, c'est le fait que les femmes sont dans la sphère publique, actives. Elles sont dans les grands magasins, elles sont dans la rue, et ça, c'est quand même pas convenable.
Et oui, et puis en particulier certaines catégories de femmes. J'ai appris en vous lisant, Anaïs Albert, que le mot midinette venait justement de naître à ce moment-là. Il naît dans les années 1890 et que ces midinettes sont l'objet d'une attention soutenue de pas mal de monde, en particulier de ceux qu'on appelle les réformateurs sociaux, dont fait partie Charles Benoît, auteur en 1895 des Ouvrières de l'Aiguille à Paris, note pour l'étude de la question sociale, un texte lu par Daniel Koenigsberg.
L'ouvrière est jeune, libre, peu instruite, peu réfléchie, et demeure loin de l'atelier. Elle part de chez elle avant le jour et retourne après la nuit tombée à pied, par les rues désertes ou à travers la foule, ce qui n'est pas moins dangereux. Elle vient et s'en retourne toute seule, ou pis encore avec des camarades. Les tentations ne lui manquent pas. C'est une robe qu'a une telle, un bijou que lui montre une autre. Elle qui gagne à peine de quoi se nourrir, qui déjeune à midi si maigrement et si hâtivement, ployée en deux sur son travail, elle a un rêve. Pouvoir manger comme celle-ci ou celle-là au restaurant, dans la salle commune du marchand de vin d'en face, qu'elle se représente comme un lieu de délices. Dès qu'il aura devant elle quelques sous, elle ira. Dès qu'il y sera allé, elle ne pourra plus s'en passer par vanité et par plaisir. Un jour, qui ne tardera pas, elle y rencontrera un galant de sa classe, un ouvrier comme elle, prompt aux entreprises. Elle résistera de son mieux, mais toutes sortes de bonnes raisons font que son mieux n'est pas le bien. Elle est pauvre d'abord, et puis elle est coquette. Elle a l'esprit très éveillé. Quelque chose à la fois du gamin et de la femme. Elle a la curiosité de savoir et la convoitise d'avoir. Une bagatelle, un colis fiché, un ruban, elle ne peut s'en taire. Et le conseil des plus expertes vient à point. Qu'elle saute, elle voudrait cela, quoi de plus facile? Elle n'a qu'à se le faire offrir. Pour ce qui est demandé en échange, qu'est-ce donc? D'ailleurs qu'il saura. Tous ces scrupules, des bêtises.
Il y a des gens sur terre et ailleurs qui voudraient devenir peintres ou sculpteurs. Il y en a d'autres, c'est navrant, qui veulent être puissants et qui rêvent d'être empereur, prince ou ambassadeur. Moi, mon rêve n'est pas banal et je suis pourtant normal. Je voudrais pas être aviateur, pas plus que vidangeur, mais je voudrais bien être trottin. Ah, si j'étais petite midinette, tais-toi, tais-toi, ce que ça ferait ma joie. Je serais tout plein, gracieuse et coquette. Tais-toi, tais-toi, j'en suis en émoi. Je m'en irai retroussant ma jupette. Tais-toi, tais-toi, on verrait ma foi. Mes jolies petites cuisses en voile, toutes recouvertes de poils. J'affolerai les bourgeois. Tais-toi, tais-toi.
Voilà un extrait du texte de Charles Benoît, complété par une chanson de Georgius de la Belle Époque, justement, Si j'étais midinette, interprétée ici par Fernandelle. Alors Anaïs Albert, on s'intéresse beaucoup à ces midinettes, on a très peur pour leur vertu en l'occurrence. Elles sont couturières, donc généralement dans les hautes maisons de mode parisiennes. Elles fréquentent les mêmes quartiers que les journalistes, qui d'ailleurs écrivent beaucoup sur elles. Et elles sont... observée, elle commence à 13 ans, dites-vous, dans des ateliers, en apprentissage, et puis généralement, elle ne reste pas beaucoup plus tard que 35 ans dans ces maisons de mode. Mais néanmoins, dans cette période-là, elles sont célibataires, elles ont un salaire qui n'est pas si mauvais que cela, et même qui est bien plus élevé que la plupart des ouvrières. Et donc, on s'inquiète beaucoup de la façon dont elles se comportent dans la société parisienne de l'époque, Anaïs Albert.
Oui, et on s'inquiète beaucoup de la manière dont elles dépensent cet argent. Et la peur fondamentale, c'est que la consommation appelle la consommation, et qu'elles aient des désirs qui sont au-dessus de leurs conditions. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot midinette, ça veut dire faire la dinette à midi, donc ça veut dire manger dehors. Et donc déjà, rien que dans la manière de les nommer, on a cette consommation qui est présente.
Oui, et on peut aller au restaurant et au restaurant faire de mauvaises rencontres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va devoir dépenser et peut-être vendre ses charmes pour pouvoir dépenser plus.
Tout à fait. Et Charles Benoît, dans la suite, suite du texte qu'on écoutait là a cette formule assez à la fois belle et vide. Il dit à elle de combler le vide en se rappelant qu'elle est femme. Donc tout est dit dans cette phrase. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est là le lien qui se fait entre luxe et luxure, et aussi entre consommation et sexualité. Et il faut pas oublier que dans la langue du 19e siècle, on consomme évidemment des objets, etc., mais on consomme aussi le mariage. Mmh. Et donc il y a quand même là cette idée que pour avoir accès à des biens, en gros, on pourrait éventuellement se prostituer ou être une femme entretenue.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez travaillé sur ce discours sur les midinettes. Il y a à la fois ces réformateurs lepléziens, issus du travail de Frédéric Leplay, dont on parlait il y a quelques semaines dans la Fabrique de l'Histoire, dans notre semaine sur les enquêtes. Et puis il y a de l'autre côté, les gens de la CGT et une certaine Mimi Pinson, évidemment un pseudonyme, dans un journal de la CGT, la bataille syndicaliste, qui explique... Eh bien que, tout de même, il faut bien se comporter quand on est une midinette, parce qu'il y a des risques aussi à cela, et c'est en particulier les risques de rejoindre une classe bourgeoise dont on ne fait pas partie.
Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette Mimi Pinson tient une chronique quotidienne sur la consommation, et elle tente quand même de prendre le contre-pied de ce discours très moralisateur sur ses ouvrières, en disant, sa grande phrase, c'est qu'on peut être correct à peu de frais. Et donc la correction, c'est la valeur morale ouvrière. Et effectivement, elle donne des conseils de consommation pour éviter la dette, pour rationaliser, mais elle n'est pas du tout dans ce discours très, très soupçonneux à l'égard de ses ouvrières.
Mais néanmoins, il faut éviter, quand on est une midinette et qu'on n'a pas, on ne fait pas partie de cette classe, vu de la CGT de l'époque, de ne pas vouloir rejoindre le mauvais goût des femmes de la haute société. Parce qu'en fait, le bon goût, c'est justement de bien se tenir, d'être bien habillée, de ne pas avoir de fleurs sur son chapeau, parce que ça, c'est du mauvais goût.
Tout à fait. Elle essaye effectivement d'élaborer un petit peu une contre-morale ouvrière et des goûts de consommation ouvrier qui seraient à la fois... Ou elle essaye, en fait, dans cette tension, parce qu'elle voit bien que ces jeunes filles ont envie de consommer, elle essaye de cadrer cette consommation au lieu de la condamner.
Et quant à la bicyclette, c'est usez-en, n'en abusez pas, c'est comme la machine à coudre.
Tout à fait. Alors là, on rejoint des grandes théories de la Belle Époque sur le problème à utiliser la machine à coudre comme la bicyclette, qui serait... actrice pour les femmes d'orgasme à répétition et qui donc les fatiguerait beaucoup. Il y a des théories scientifiques sur cette question.
Manuel Charpy.
Ce que montre aussi bien le texte, enfin pour aller dans le sens de ce que disait Anaïs Albert, c'est d'abord, ça rappelle que la Belle Époque, c'est aussi un moment de mutation des consommations, mais aussi de production dans Paris. C'est-à-dire qu'une grande partie de ce qu'on consomme dans Paris est produit dans Paris et on est dans la banlieue proche. Et donc, il y a une connexion très forte. Et les premières usines de confection féminine qu'on met en place début 20e siècle, on les installe sur les boulevards, et on le dit clairement, pour être en connexion avec la mode, et que les ouvrières elles-mêmes, descendant manger dans la rue, observent, soient capables d'observer et d'imiter.
Ah, c'est un système.
On organise une sorte de circulation, presque intuitive, comme ça, des modes, et avec cette idée que, du coup, on est très réactif au phénomène de mode. Et puis l'autre chose, effectivement, que montre le texte, c'est l'érotisation de la marchandise à ce moment-là. C'est quand même une des grandes marques de la Belle Époque, à la fois qu'on a tous en tête par les affiches de Chéret, par Mucha, par toute cette mise en scène. Mais c'est aussi cette période qui construit le rapport entre corps dénudé et marchandise. On peut penser aussi à tous les placements produits auxquels on procède dans les théâtres à partir des années 1860, et ça explose dans les années 1880, où toutes les scènes de théâtre, les robes présentées sur scène sont vendues. Enfin, c'est des lieux de publicité. Les bibelots, les meubles sont aussi en vente. Donc on a comme ça, oui, une érotisation et donc l'invention d'un nouveau type de marchandise.
Et puis cette réclame, cette publicité joue un rôle considérable aussi dans cette propagation de la consommation dans la société des années 1880 à 1910.
Oui, d'autant que, là j'évoquais par exemple le théâtre, c'est le moment aussi où explosent les théâtres populaires sur les boulevards et donc on trouve cette mise en scène, cette érotisation déclinée socialement quasiment le long du boulevard. Enfin, on peut parcourir le boulevard d'Haussmann jusqu'au temple, comme ça, en suivant tous les niveaux sociaux.
Alors, j'ai beaucoup aimé vous lire, Marie-Emmanuelle Chessel, dans votre livre « Consommateurs engagés à la Belle Époque », par la nuance dont vous faites preuve dans ce travail sur la Ligue sociale d'acheteurs, vis-à-vis justement de ces milieux qui auraient pu réagir avec une donnée morale, pourrait-on dire, en considérant que cette consommation, en particulier pour les femmes, était une sorte de perdition de leur vertu, et qui ne réagissent pas du tout de la même manière. Il peut y avoir un fond de cela dans le travail de ces ligues de consommateurs qui naissent à la fin des années 1890 et en particulier aux États-Unis ou dans les années 1890 et qui se répandent en France à partir de 1902 avec cette ligue sociale d'acheteurs. Mais ça n'est pas le fond de l'affaire au bout du compte. Ce sont pourtant des milieux catholiques. Ce sont des milieux catholiques dont certains sont issus de familles qui sont monarchistes et pas républicaines et qui néanmoins vont se lancer dans cette aventure de ligue sociale d'acheteurs qui, quoi, sont à l'origine de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le fair trade, c'est-à-dire une consommation qui se veut responsable et qui veut que si les prix baissent, ça ne soit pas pour autant au détriment du travail des travailleuses et travailleurs qui ont produit ces produits.
Tout à fait. Et la première réponse, ça consiste à faire des enquêtes sociales, en particulier dans les ateliers de couture dont nous venons de parler, pour justement essayer de voir comment se passent les pratiques de consommation dans ces milieux populaires. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes de la Ligue sociale d'acheteurs vont essayer de comprendre comment ça se passe dans le monde du travail et ils vont ensuite essayer d'expliquer comment, en transformant leur propre mode de consommation, ils vont pouvoir avoir une action réformatrice dans le monde du travail.
On n'est pas dans l'action révolutionnaire, on est vraiment dans le système de la réforme sociale, pourrait-on dire. D'ailleurs, le premier discours est tenu dans un endroit phare de la réforme sociale, c'est au Musée social, en l'occurrence. C'est la femme de Jean Brune, grand géographe de l'école de Vidal de la Blache qui va prendre la parole la première. Et vous dites qu'en fait, cela naît dans les années 1890 en Grande-Bretagne, que ça échoue, ces ligues de consommatrices, que ça se déplace aux États-Unis et que justement, par la vertu de ces expositions universelles et de ces discussions qu'il y a autour des expositions universelles, ça revient en France et ça se développe en France à partir de 1902 avec cette Ligue sociale d'acheteurs.
Tout à fait. Donc ce sont des hommes et des femmes catholiques sociaux qui s'emparent d'une idée qui avait échoué en Grande-Bretagne, qui a réussi aux États-Unis, qui a donné lieu à des ligues de consommateurs et qui ensuite traversent l'Atlantique pour revenir dans un autre milieu. Et ces catholiques sociaux, ces hommes et ces femmes, vont effectivement s'emparer de l'idée mise en place aux États-Unis, selon laquelle on peut réformer ces mode de consommation, voilà. Et avoir ainsi une action sociale.
Oui, Maud Nathan, donc une penseur de ces modes de consommation nouveaux au 19e siècle aux États-Unis, dit « Les femmes qui achètent du linge ou des vêtements à trop bon marché sont responsables du sang et des fibres humaines tissées, pour ainsi dire, dans ces étoffes. » On pense au Rana Plaza et à 2013, d'une certaine façon, dans ce travail, justement, cette idée que on ne peut pas s'absoudre, d'une certaine façon, de ce qui s'est passé dans la fabrication des vêtements que l'on porte.
Exactement, et c'est une idée qui remonte à la lutte contre l'esclavage, puisque à ce moment-là, déjà, certaines femmes en particulier expliquaient qu'on buvait le sang des esclaves en buvant son thé. Et ici, il y a une utilisation de la même idée, avec l'idée qu'on va porter le sang, la sueur des ouvrières dans le linge qu'on achète, et donc qu'il faut avoir une action responsable dans la manière dont on va choisir ses couturières.
Un écho justement de cette Ligue sociale d'acheteurs dans une revue fondée par Benoît Malon, un des grands socialistes de la fin du 19e siècle, donc la revue socialiste qui donc en rend compte en 1906.
Qu'est-ce que la Ligue sociale d'acheteurs ? La Ligue sociale d'acheteurs est une association de personnes qui, réfléchissant à la responsabilité qu'elles ont vis-à-vis du monde du travail en tant qu'acheteurs ou acheteuses, se préoccupent d'obtenir, par leurs achats quotidiens éclairés et organisés, des améliorations progressives des conditions du travail. Que doit faire un membre de la Ligue sociale d'acheteurs ? Ne jamais faire une commande sans demander si elle ne risque pas d'entraîner le travail de la veillée ou le travail du dimanche. Toujours éviter de faire ses commandes au dernier moment, surtout aux époques de presse. Refuser toute livraison après 7 heures du soir ou le dimanche. Afin de ne pas être indirectement responsable d'une prolongation des heures de travail pour les livreurs, employés ou employées, apprentis ou apprentis, payer ses notes régulièrement et sans retard. En outre, un membre de la Ligue sociale d'acheteurs doit avoir la préoccupation constante de connaître ou de chercher à connaître dans quelles conditions travaillent ceux qu'il fait travailler par ses commandes ou par ses achats. Souvent, il lui sera impossible à lui, individu isolé, de se renseigner avec exactitude et avec certitude sur des faits dont un grand nombre échappent à sa vue et à son examen. Il voit le magasin, la boutique élégante du pâtissier, le salon d'essayage, mais il ne peut visiter ni arrière-boutique ni atelier, et encore moins les dortoirs des jeunes apprentis. Ce sera l'objet principal de la Ligue de faire des enquêtes générales et de renseigner ses membres sur des faits qui leur échappent nécessairement. Ce sera l'objet de la Ligue de signaler et de recommander à sa clientèle les patrons qui ont eu le courage et la générosité de placer leurs employés et ouvriers dans de parfaites conditions morales et sociales.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la consommation et aujourd'hui la consommation à la Belle Époque. Alors, en même temps que dans cette revue socialiste qui avait été fondée par Benoît Malon, eh bien, en 1906, on rend compte de cette Ligue sociale d'acheteurs. On voit bien qu'il y a le label en même temps, ce fameux label qui permet en particulier aux ouvriers de dire qu'ils ont produit quelque chose dans des conditions sociales acceptables. Et d'ailleurs, à propos de cette Ligue sociale d'acheteurs, on dit il ne faut pas que le label que l'on va mettre en place, les listes blanches que l'on va mettre en place d'entreprises qui ont des bonnes pratiques, viennent contredire ce label ouvrier qui, d'une certaine façon, est déjà là pour dire que les conditions de production ont été bonnes. C'est un message à travers le temps envoyé à Amazon.com et à tout un tas d'autres maisons donc de fabrication de vêtements à bon marché à l'autre bout du monde, d'une certaine façon, Marie-Emmanuelle Chessel.
Tout à fait. On retrouve dans ce texte des éléments qui sont dans les tracts de la Ligue sociale d'acheteurs qui ont été repris. Et on retrouve l'idée d'un contrat moral signé entre les consommateurs et les fournisseurs, avec l'idée que les acheteurs acceptent de se remettre en question, de ne pas faire des commandes, de ne pas consommer le dimanche, etc. Et en échange, ils demandent aux fournisseurs de faire un effort. Effectivement, on n'est pas du tout ici dans une révolution sociale, on est plutôt dans un accord.
Une réforme.
Les fournisseurs acceptant, par exemple, de ne pas envoyer leurs ouvrières avec du travail le soir, de ne pas repartir, ce qu'on appelle la seconde veillée. Les acheteuses acceptant, quant à elles, de ne pas faire des commandes au dernier moment, en particulier le soir, pour ne pas exiger que les ouvrières travaillent la nuit. On est dans un accord entre les deux.
Oui, on est aussi dans un accord qui n'est peut-être pas aussi, qui est peut-être un peu plus révolutionnaire que les accords qu'on a signés récemment, justement, sur cette question du travail du dimanche ou d'autres moments que l'on peut saisir de la vie du travail aujourd'hui. Alors, on voit bien qu'il y a des bouleversements, qu'il y a des forces qui sont en action, pourrait-on dire. Ces forces sont contradictoires, mais néanmoins veulent le progrès de la situation des ouvriers ou des ouvrières, un meilleur salaire, parce qu'on voit bien que sinon on aura des révoltes ou des révolutions, Anaïs Albert. Et donc il y a aussi cette question de la classe qui entre en ligne de compte. Vous avez travaillé sur est-ce que la consommation de masse, dont on dit qu'elle peut naître à ce moment-là, est aussi une consommation de classe. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Anaïs Albert?
Oui, parce que jusqu'ici, on a regardé le développement de la consommation. Et effectivement, si on regarde les objets qui sont produits et achetés, il y a une diffusion massive de certains biens qui n'étaient pas disponibles avant pour les classes populaires. Mais en même temps, si on regarde, par exemple, la manière dont ces objets sont achetés ou sont utilisés, là, on voit bien que pour les classes populaires parisiennes, il reste des savoirs qui sont des savoirs populaires. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ces objets sont beaucoup achetés à crédit, à l'inverse d'autres milieux sociaux, ou en tout cas, c'est plus ouvertement acheté à crédit que dans d'autres milieux sociaux.
Il faut dire que c'est le moment aussi de développement d'un certain type de crédit à la consommation qui n'est pas, comme on l'a dit souvent, dites-vous, dans votre travail de thèse, Anaïs Albert, une rupture complète avec les crédits qui étaient donnés généralement par les marchands de quartier, les voisins, etc., etc., mais qui est une évolution de cette pratique du crédit personnel par l'intermédiaire de grandes maisons de vente et de grands magasins qui reprennent plus ou moins les mêmes techniques, mais qui les systématisent.
Tout à fait. On a en fait un système qui est un système de grands magasins populaires qui croient en quelque sorte en parallèle avec les grands magasins bourgeois comme ceux qui ont été décrits tout à l'heure avec le texte de Zola. Et il y a à Paris une figure majeure, celui qui est surnommé l'empereur du crédit, et c'est Georges Dufayel, dont les grands magasins étaient boulevard Barbès. On peut encore voir un certain nombre des bâtiments aujourd'hui. Donc juste à côté du quartier de la Goutte d'Or, qui est à l'époque un quartier très populaire. Et donc là, on a une véritable cathédrale de la consommation, un très grand magasin, et effectivement, ce grand magasin fait crédit. Mais pour faire crédit, il s'appuie sur le quartier, sur les informations très précises, et notamment les informateurs principaux. Voilà, c'est les concierges. C'est-à-dire que l'enquête qui permet de savoir si on va faire crédit, ça consiste tout simplement à aller voir la concierge et demander si le loyer est payé régulièrement et s'il y a des dettes. Et ensuite, la deuxième étape, celle qui suit juste après, c'est le contact avec ce qu'on appelle l'abonneur, puisque ce crédit s'appelle vente à l'abonnement. Et donc l'abonneur, il passe toutes les semaines dans les foyers populaires chercher un franc. Un franc, c'est très peu, puisque les salaires minimum, c'est 5 francs par jour. Donc un franc, c'est très peu. Et du coup, comme il passe toutes les semaines, on ne peut pas trop lui refuser, on le connaît.
Il devient une sorte d'ami. Même si, en l'occurrence, cet ami vient vous chercher de l'argent, en tous les cas, il pratique pour faire en sorte qu'une fois que vous avez mordu à l'hameçon, que vous avez commencé à prendre un premier crédit, que ce crédit a été remboursé dans les temps, eh bien, on va vous proposer de nouveaux produits dont vous pourriez avoir besoin et qui pourraient être là aussi utiles pour votre intérieur, par exemple.
Tout à fait. Par exemple, beaucoup sur les vêtements, on en parlait tout à l'heure, mais il y a un texte où il est dit que l'abonneur dit que le bleu est très à la mode et que donc ça serait très bien d'acheter une chemise bleue pour les enfants, etc. Donc on voit bien qu'il propose de nouveaux produits et en quelque sorte, c'est presque une épargne forcée. C'est-à-dire que toutes les semaines, il vient, on est obligé de lui donner un franc et donc on le fait.
Et alors, il y a cette dimension du crédit à la consommation qui est très intéressante quand on vous lit, Anaïs Albert, mais il y a aussi cette concomitance, dites-vous, de modes de consommation anciens avec des modes de consommation plus nouveaux, en particulier la retape, le travail de récupération, qui sont des modes de consommation typiques du 19e siècle, Manuel Charpie va nous en dire quelque chose, et des siècles précédents, et la nouveauté.
On a vraiment cette cohabitation des deux. C'est-à-dire que quand même, les classes populaires sont caractérisées par la vulnérabilité économique et elles ont donc des savoirs pratiques de la pauvreté. Et même si le niveau de vie augmente, on conserve ces savoirs pratiques. Donc il y a notamment l'idée d'acheter ces objets chez le brocanteur, par exemple, ou aux puces, les puces de Saint-Ouen, les puces de Vanves. Et puis il y a aussi l'usage qui reste fort du monde piété. C'est-à-dire qu'on, certes, on a des objets nouveaux, mais on ne perd jamais de vue leur valeur. Et on sait toujours qu'on peut les gager, donc les gager, obtenir un crédit sur ces objets.
Et
donc
là, qu'on ne garde pas forcément ces objets jusqu'au bout, parce que en cas de revers de fortune, on sera obligé de s'en séparer au bout du compte. Donc on n'a pas cette idée de la possession définitive d'un objet, en l'occurrence, Anaïs Albert.
Tout à fait. Et j'avais parlé dans ma thèse de consommation transitoire, en réalité. C'est-à-dire que l'important, c'est jouir de l'objet. On l'achète à crédit, parfois on le gage au monde piété, et entre les deux, on l'a et on en profite.
Alors, Manuel Charpie, cette persévérance, pourrait-on dire, de ce modèle de la fripe, de la brocante sur lequel vous avez travaillé, qui est mêlé aussi avec la nouveauté de l'arrivée de produits exotiques bon marché, tout cela fait que les décors de ces intérieurs français ou parisiens de la fin du 19e siècle et du début du 20e changent profondément.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Anaïs Albert, on consomme effectivement encore dans des circuits de seconde main et qui se distinguent de plus en plus des circuits d'antiquaires, de curiosités, qui sont eux des circuits où les objets prennent de la valeur. Et il y a une chose très frappante quand on lit les travaux d'Anaïs Albert, c'est que dans la bourgeoisie, les objets deviennent de plus en plus des objets qui portent des histoires, qui sont transmis avec grand soin, qu'on retrouve dans tous les testaments. Et à l'inverse, dans le monde ouvrier, les objets ne font pas archives.
Ça circule.
Voilà, ça circule beaucoup plus, c'est beaucoup plus mouvant. Mais de la même façon qu'on trouve très peu d'archives écrites dans les milieux populaires, on trouve très peu d'objets qui font archives. C'est l'inverse de la bourgeoisie qui met un très grand soin à construire des histoires sur des histoires et à transmettre ces histoires. Puisqu'en transmettant des objets, on transmet aussi une culture.
Quitte à être floué par tout un tas de faiseurs qui, évidemment, vont fabriquer du faux à grande échelle, parce qu'il y a beaucoup de besoins, et donc cette bourgeoisie a un plaisir fou à récupérer des fausses armures du 15e siècle et des faux tapis anciens ou des faux meubles Henri II.
Alors, absolument, et c'est d'autant plus fort, c'est peut-être une des mutations des années 1880 pour le coup, c'est que on va construire une espèce de quête de l'authenticité dans la bourgeoisie. C'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, la multiplication des objets en toc, des copies de la galvanoplastie, des contre-moulages, etc., fait qu'on va en permanence chercher des objets authentiques. C'est aussi un moyen de se démarquer,
distinguer.
Voilà, simplement d'une classe moyenne, on va dire, ou d'ouvriers parisiens, notamment en pleine ascension sociale. Et donc, on va chercher des objets, qui sont censés être authentiques, peu importe s'ils sont faux finalement, mais qui racontent de vraies histoires et qui sont des histoires, pour rejoindre ce que disait Marie-Emmanuelle Chessel tout à l'heure, d'objets qui ont été produits dans d'autres régimes de production, des objets artisanaux, des objets, voilà, qui sont pas des produits industriels. Et c'est une chose assez importante, cette connexion. C'est aussi à la Belle Époque quand même qu'on construit, fin 19e siècle, qu'on construit cette mythologie des produits de luxe, produits par des gestes traditionnels, anciens, les vieux métiers. C'est très frappant, toutes les publicités des années 1880, des tapissiers, sont des publicités façon 18e siècle. On reprend le graphisme, les dessins, etc.
Vous voulez dire que ce qu'on voit aujourd'hui chez Hermès ou chez LVMH, c'est appelé
ça s'invente complètement à ce moment-là. On commence d'ailleurs à annoncer depuis 1840, depuis 1700, quelque chose. Donc il y a cette idée, voilà, de gestes qui sont manuels, traditionnels, ancrés dans une longue tradition. C'est lié évidemment à la diffusion des produits industriels.
Mais la fripe continue toujours, rassurez-nous, c'est-à-dire qu'on récupère les vieux vêtements comme auparavant, et ça ne change pas considérablement au tournant du 19e et du 20e siècle, Manuel
Charpy ? Non, effectivement, le texte de Zola peut donner, a eu un tel succès qui donne l'impression que d'un coup déboule les grands magasins dans toutes les classes de la société, bouleverse et écrase le petit commerce. On est très loin de ça, on a des réseaux commerciaux, Anne Saber parlait du crédit, c'est la même chose pour Dufayel, c'est-à-dire oui, la vente à tempérament, mais à côté, on continue à faire crédit chez le brocanteur, à déposer des objets en vente, voilà. Donc oui, il y a une coexistence complète et souvent des intrications de ces commerces-là. Dans un sens, Dufayel, avec ses invendus, ses stocks abîmés, nourrit le commerce de la fripe, et voilà, donc les choses circulent aussi d'un monde à l'autre,
Et du monde provincial au monde parisien, un extrait de Bécassine lu par Daniel Königsberg.
Le train paraissait au tournant de la route, crachant, soufflant et geignant, sale à faire frémir. Ce détail n'offusqua nullement Bécassine. Elle monta dans une baladeuse ouverte où étaient empilées une vingtaine de personnes, pour la plupart des paysannes, revenant du marché de Dinard. La conversation s'engagea. « Tout était hors de prix au marché !» fit une jeune femme. « La crise de la vie chère !» prononça un monsieur tout de noir vêtu. Sa voisine dit « Même au poids de l'or, on aurait pu avoir du beurre, alors avec quoi qu'on fera la soupe ?»« La crise du beurre !» articula le monsieur en noir. Une dame reprit « Eh, comment la faire cuire la soupe ? Voilà 8 jours que je cours pour avoir du charbon, pas moyen d'en obtenir. Pourtant, j'en ai vu des montagnes l'autre semaine sur le quai de Saint-Malo. Qu'est-ce qu'on en fait ?»« Crise du charbon, crise des transports, » opina le monsieur en noir. « Mesdames, l'époque que nous vivons portera dans l'histoire le nom de l'époque des crises. » Il fut interrompu par l'employé qui venait recevoir les places. À sa vue, d'un seul mouvement, toutes les femmes et le monsieur lui-même sortirent de leur poche des billets. Qui de 5 francs, qui de 10 francs, qui de 20 francs. « Ah, toujours la même chose !» gémit le receveur. « Où voulez-vous que je prenne de quoi vous rendre ? Je n'ai pas un sou, pas un franc. Rien de rien dans ma sacoche !»« La crise de la monnaie !» dit le monsieur en noir de plus en plus solennel et lugubre.
« une invention de cette belle époque, la bécassine de Pinchon, donc 1905, dans la semaine de Suzette. Alors, pour tout le monde à l'époque, enfin en tout cas pour ce monsieur en noir, eh bien, la belle époque n'était pas une belle époque, puisque c'était une époque supposée, une époque de crise. Alors, pour revenir à cette ligue sociale d'acheteurs sur laquelle vous avez travaillé, Marie-Emmanuelle Chessel, il ne faudrait pas laisser croire que ce mouvement, dont on a dit la nouveauté, le caractère un peu réformiste, même très nettement réformiste, quant à la condition de travail des ouvriers et des ouvrières en particulier, et à la nécessité pour les acheteurs de faire attention à ce qu'ils achetaient, va durer éternellement. Ça va s'interrompre dès la Première Guerre mondiale advenue, ça va tenter de renaître ensuite dans les années 20, et ça va disparaître complètement avant la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait. Une des raisons pour laquelle cette ligue, d'ailleurs, n'arrive pas à se maintenir est le fait qu'elle n'arrive pas à prendre parti pour les droits des consommateurs qui, précisément, luttent contre la vie chère dans les années 1910.
Oui, c'est
d'autres mouvements qui, pour le coup, vont défendre le droit des consommateurs à consommer bon marché. Or, ces ligues sociales d'acheteurs, précisément, ne peuvent pas voir les ouvriers comme des consommateurs. Ils ne les voient que comme des ouvriers. Ils s'intéressent à leur monde du travail, mais pour eux, c'est un angle mort. Ils ne les voient pas comme des consommateurs.
Oui, c'est très intéressant parce que quand on pense ligue de consommateurs, on se dit aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent faire baisser les prix d'une certaine façon pour pouvoir permettre à plus de gens d'avoir accès au marché de la consommation. Or, il y a deux tendances dans ces ligues de consommateurs. Vous le dites bien, cette ligue sociale d'acheteurs qui dit non, il faut acheter au bon prix pour que les conditions de travail de ceux qui produisent soient les meilleures possibles, et d'autres qui disent non, on ne peut pas accéder au marché de la consommation, donc il faut que ça soit pas cher.
Tout à fait, et d'ailleurs au même moment, dans les années 1900, en Angleterre, il y a un grand mouvement pour le free trade qui défend le droit des consommateurs à consommer bon marché et qui défend un commerce qui permettra de faire baisser le prix des denrées. Et une des raisons pour lesquelles la Ligue sociale d'acheteurs ne peut pas se maintenir après la Première Guerre mondiale, c'est précisément le fait qu'elle ne voit pas le droit des consommateurs et elle ne peut pas s'allier avec d'autres mouvements comme les coopératives ou d'autres mouvements qui défendent, eux, le droit des consommateurs à pouvoir consommer de qualité et bon marché, ce qui donnera lieu effectivement au consumérisme.
Et oui, cette question, effectivement, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Comment faire en sorte qu'elle soit sociale et solidaire à la fois, Anaïs Albert, c'est ce sur quoi vous avez travaillé, tout compte fait, dans votre travail de thèse, cette question de consommation de masse et consommation de classe, et peut-être les tensions, justement, selon qu'on appartient à telle classe ou à telle autre.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, pour le coup, on voit monter... Alors, bon, quand on travaille sur les classes populaires, il y a toujours la difficulté de restituer la parole populaire. Mais enfin, on voit quand même monter, déjà dans les objets possédés, tout simplement, et même dans un certain nombre de textes, cette demande de consommation qui est très forte, et avec l'idée, justement, qu'il faut que les consommateurs soient libres et qu'ils n'ont pas du tout envie, les ouvriers, qu'on moralise leur consommation et qu'on leur dise que consommer.
Ce qui est bien, quoi, d'une certaine façon, pour eux. C'est-à-dire qu'on pense pour eux d'une certaine façon. Il y a cette question de l'autonomisation de la pratique de consommation de son côté, parce qu'elle est permise, cette autonomisation, par les bas prix qui arrivent, et de l'autre côté des gens qui disent mais il faut faire attention à ce que vous allez consommer. Manuel Charpie.
Oui, il y a une réponse très nette, par exemple dans la mise en scène des objets. On invente en gros à partir des années 1860, mais ça explose à partir de 1880, les showrooms pour vendre des meubles. Ça se passe dans le Faubourg Saint-Antoine, par exemple. Et on va chasser en arrière-plan la production, fabriquer des faux espaces privés pour vendre l'immobilier. Et en même temps, on va de plus en plus mettre en scène le travail. C'est-à-dire qu'on va montrer, on va ouvrir une pièce de l'atelier.
Vous voulez dire que ce que certains boulangers font aujourd'hui en montrant le fournil en train de, avec les travailleurs derrière, c'est la même chose.
Et vous l'imaginez, on ouvre une seule pièce où tout est balayé, propre, enfin voilà. Et on a aussi quantité de publicités qui sont comme ça, des pseudo-enquêtes qui répondent à ces ligues de la consommation, des pseudo-enquêtes dans des ateliers. Qui sont en fait des publicités déguisées. Il y a une autre chose qui compte aussi, c'est l'internationalisation quand même de cette consommation. Je disais tout à l'heure que c'est produit à Paris, beaucoup d'objets sont produits à Paris, mais en même temps on a un commerce très international. Et ce qu'on voit, c'est qu'on s'inquiète quand même assez peu des conditions de production à l'étranger. Par contre, on s'inquiète beaucoup plus de la manière dont les sauvages, etc., vont s'emparer des produits
produits
européens.
Produits chez nous. Ouais.
C'est les ouvriers empires. Vous avez quantité de gravures toute fin 19e de la négresse à la mode de Paris, qui est beaucoup plus scandaleuse au fond. que le fait qu'elles produisent par ailleurs du, je sais pas, du tapioca ou de l'arachide pas cher pour la, la consommation parisienne.
Oui, Anaïs Albert.
Oui, juste sur cette question de la tension dont on parlait tout à l'heure, les socialistes par exemple vont être, le mouvement socialiste va être un peu pris entre deux feux, c'est-à-dire que d'un côté ils défendent les ouvriers et leurs droits, et de notre côté, donc ils veulent des salaires importants, enfin voilà, ils veulent pas qu'on fasse baisser les prix, et en même temps bah, ils sont face à des ouvriers qui leur demandent de les défendre, et c'est à ce moment-là qu'en fait on voit apparaître ce qui va ensuite se formuler comme la question du pouvoir d'achat. Et plus seulement le salaire, mais la, ce que le salaire permet d'acheter, l'équivalent en consommation du salaire. Et ça apparaît vraiment dans ces années-là. Et moi, je pense particulièrement à la grève des midinettes de 1917, dans la Première Guerre mondiale, avec des femmes qui demandent le maintien de leur pouvoir d'achat dans une capitale en guerre où l'industrie de la mode est évidemment un peu mise en difficulté. Et ces femmes, elles vont défiler pour demander un maintien de leur salaire et du temps libre, donc du temps dont elles font ce qu'elles veulent.
Et puisqu'on parle de cette Première Guerre mondiale, un salut à quelqu'un qui tient une place importante dans votre travail, consommateur engagé à la Belle Époque, Marie-Emmanuelle Chessel, Justin Godart. Justin Godart qui débute sa carrière politique juste avant la Première Guerre mondiale, qui pendant la Première Guerre mondiale va faire partie de tous les cabinets de crise et d'Union nationale, et qui évidemment pendant les années 20 et 30 et même plus tard va en particulier défendre les enfants de Lozay et tout un tas de questions sur l'antisémitisme. Justin Godart commence en combattant pour faisant une campagne en 1909 contre le travail de nuit des boulangers, par exemple.
Tout à fait, et il va s'allier avec la Ligue sociale d'acheteurs pour justement pouvoir réformer le travail de nuit des boulangers. Il ne va jamais réussir à obtenir une loi supprimant le travail de nuit des boulangers, mais il va s'appuyer sur toutes des discours, des pratiques et des modes d'action, précisément, par exemple, liant les conditions de travail et le pain. Lui-même va condamner le fait que le consommateur achète du pain avec de la sueur.
Merci Marie-Emmanuelle Chessel d'être venue dans cette émission. Je rappelle que Consommateur engagé à la Belle Époque, la Ligue sociale d'acheteurs, est publiée aux presses de Sciences Po, qu'on attend avec impatience la thèse d'Anaïs Albert. Ça sera dans quelques temps. Vous l'avez soutenue il y a 2 ans, donc vous avez
un an et demi,
le temps de la remettre en forme pour un éditeur qu'on attend avec encore plus impatience. Et ça, c'est un feuilleton dans la fabrique de l'histoire. La thèse de Manuel Charpie qui ne saurait tarder. On l'espère, et on pourra en attendant lire la très bonne revue Mode Pratique dont vous êtes un des co-directeurs, Manuel Charpie. Le numéro 2 est pour bientôt ?
Pour fin novembre normalement.
Voilà, et donc c'est une revue qui a, si vous avez écouté La Fabrique de l'Histoire quand on en a parlé, la particularité de s'intéresser à la façon dont la mode s'inscrit dans la vie quotidienne de chaque jour. C'est une excellente revue Mode Pratique, donc, que vous co-dirigez. Merci à tous les trois et merci à vous, Daniel Königsberg. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Nicolas Delmas était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Nous continuons demain et terminons cette série d'émissions consacrée à l'histoire de la consommation en nous intéressant avec Séverine Niattard aux consommations de produits exotiques, les indiennes, le thé, le café, le chocolat et tout un tas d'autres produits au XVIIe, XVIIIe siècle qui vont commencer à envahir le marché européen. Ça sera le thème de l'émission de demain. Si vous voulez écouter cette série d'émissions et en particulier le documentaire d'hier signé Amaury Chardot et Séverine Cassard, un documentaire dans lequel vous étiez d'ailleurs, Anaïs Albert, commentaire donc de ces agendas retrouvés sur une brocante des années 49, 50 et 64, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr.